VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Les États-Unis ont publié hier leur rapport annuel sur la liberté religieuse, un panorama des entraves à la liberté de culte et de croyance dans près de 200 pays du monde. Celui de 2016 dresse un tableau sombre. Le point ?
En présentant le rapport à Washington, le secrétaire d'État américain a d'abord mis l'accent sur le groupe État islamique en Irak et en Syrie, qui cible des groupes religieux ou ethniques par le viol, les enlèvements, l'esclavage et la mort. Pour le chef de la diplomatie américaine, Daesh est responsable de génocide à l'encontre des yézidis, des chrétiens et des musulmans chiites. Le rapport du département d'État recense les discriminations contre les musulmans en Hongrie ou d'actes antisémites et contre les musulmans en Allemagne où une interdiction partielle du voile intégral est en débat. Le document relève aussi les controverses en France sur une possible interdiction du burkini sur les plages. L'Iran est épinglé pour avoir condamné à mort des personnes pour apostasie. La Chine est pour sa part accusée d'incarcérer des milliers de personnes à cause de leurs croyances religieuses. L'Arabie Saoudite, alliée des États-Unis, n'est pas en reste. Elle ne reconnaît pas le droit des non-musulmans à pratiquer leur religion. Au Pakistan, une vingtaine de personnes sont dans les couloirs de la mort ou emprisonnées à vie pour blasphème.
En Corée du Nord, Kim Jong-un a annoncé hier une pause dans le projet de son pays de tirer des missiles près du territoire américain de Guam. Les principales puissances impliquées dans ce dossier semblent vouloir jouer l'apaisement, y compris les États-Unis. Les précisions, John Nixon.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, traditionnellement très mesuré dans ses propos, a réaffirmé dans la foulée qu'il ne fermait pas la porte à un éventuel dialogue. Nous sommes toujours intéressés par la recherche d'une voie vers le dialogue, mais cela dépend de lui, a-t-il affirmé au sujet de Kim Jong-un. L'annonce du dirigeant nord-coréen constitue en elle-même une possible porte de sortie de la crise alimentée par la guerre des mots entre le président américain Donald Trump et la Corée du Nord. Autre signal d'une volonté de désescalade, la Chine, principal allié de la Corée du Nord, a également estimé hier qu'il était temps de revenir à la table des négociations. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s'est entretenu par téléphone avec son homologue russe Sergei Lavrov pour évoquer comment sortir de la spirale de confrontation sur la péninsule coréenne. Pékin et Moscou ont appelé toutes les parties impliquées, avec le soutien de la communauté internationale, à se diriger vers la mise en place d'un dialogue, d'après le ministère.
Le Canada, les États-Unis et le Mexique entament aujourd'hui des discussions pour renégocier le traité de libre-échange nord-américain, ALENA, à la demande de Donald Trump, qui en a fait une priorité de sa politique. Les négociateurs des trois pays seront réunis jusqu'à dimanche dans la capitale américaine pour moderniser cet accord commercial en vigueur depuis 1994 et qui a fait bondir leurs échanges commerciaux. Le président américain n'a eu de cesse de dénoncer l'ALENA, un désastre selon lui, lui attribuant d'ailleurs la responsabilité de nombreuses disparitions d'emplois ici aux États-Unis. La discussion de cette semaine constitue le premier round d'une série organisée à tour de rôle dans les trois pays. Le deuxième round aura lieu au Mexique le 5 septembre avant le troisième au Canada à une date non communiquée. L'ex-premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a déposé un recours contre sa disqualification à la fin du mois de juillet dernier par la Cour suprême qui avait conduit à la chute de son gouvernement dans la foulée du scandale des Panama Papers. La Cour suprême avait rendu le 28 juillet un arrêt controversé disqualifiant M. Sharif de son poste de député, estimant qu'il ne s'était pas comporté en membre honnête du Parlement pour n'avoir pas déclaré un salaire attribué par une entreprise détenue par l'un de ses fils aux Émirats Arabes Unis. M. Sharif requiert donc le réexamen du verdict passé le 28 juillet 2017 par la Cour. Le jugement rendu par la Cour a privé M. Sharif de son droit à voir cette affaire tranchée lors d'un procès régulier, ainsi que de son droit à faire appel, argumente le recours qui affirme en outre que le jugement comporte des erreurs. En Colombie, le désarmement des FARC s'est achevé hier mardi et le conflit avec cette guérilla est vraiment terminé, a proclamé le président Juan Manuel Santos après la remise des dernières armes de la plus ancienne rébellion du continent américain. Les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, guérilla marxiste fondée en 1964 à l'issue d'une insurrection paysanne, ont signé la paix en novembre et vont se transformer en parti politique lors de leur congrès national prévu du 27 août au 1er septembre à Bogota.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
On descend sur le continent, en Sierra Leone, 3 jours de pluie torrentielle ont provoqué des inondations et un gigantesque glissement de terrain. Plus de 300 personnes sont mortes et quelques 3000 sont sans abri à Freetown. D'autres villes africaines ont déjà connu le même phénomène. Pour parler des risques naturels auxquels les villes urbaines sont soumises en Afrique, Eric Manirakiza, agent à Djibouti, Hassan Omar Boulalé, chercheur dans la gestion de risques et catastrophes naturelles.
Si on met en place la prévention avant toute catastrophe, en place des outils et d'instruments qui permettent de prévenir les risques, donc c'est possible de minimiser les dégâts, que ce soit humains et matériels.
Il y a des ministères chargés de la planification.
Tout à fait, mais est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique d'éradiquer et de prévenir ces fléaux qui sont assez importants et qui dit souvent au changement naturel et au changement climatique de nos jours, et c'est quelque chose qui se met en place. Mais en Afrique, on a tendance à oublier ou souvent à ignorer ces fléaux-là.
Vous parlez de la responsabilité des autorités, mais il y a aussi la responsabilité des populations.
L'État est le garant de tout élément parce que elle est la souveraine, elle a l'autorité sur la population, donc il fallait que l'État intervienne et avant la construction, même dans la quête des parcelles, elle devait intervenir à essayer de prescrire les zones qui sont à risque, des zones sensibles dont il ne fallait pas construire, par exemple dans des zones très sensibles pour l'inondation par exemple.
Et qu'en est-il des constructions anarchiques?
Ça dépend de la planification de l'État. Si l'État toujours veille sur l'installation des habitants, surtout dans les milieux urbains, de construire et de planifier en avance la construction en dur et essayer d'aider d'apporter des solutions qui peuvent entraîner ce qu'on appelle l'avenir durable ou qui peut apporter des changements qui sont vérifiables dans l'avenir. Donc, tout tourne autour de l'État.
On voit aussi des problèmes de canalisation.
Tous ces éléments-là, ça revient au même. C'est toujours l'État qui doit essayer de focaliser sur ce point-là, l'urbanisation, l'habitation. Donc, l'État doit apporter des solutions adéquates pour la population. Et même ce qui pose problème aujourd'hui en Afrique, c'est la recherche ou la quête de lieux d'habitation. Donc si l'État organise et planifie déjà pour la population, il y aura moins de dégâts.
Les agents de l'État attribuent des parcelles, les gens construisent tout en sachant qu'il y a des risques justement d'inondation.
La corruption fait partie des éléments destructeurs dans ce domaine-là et sur dans tous les domaines en Afrique. Mais pour sensibiliser la population, dire que c'est des zones à risque, c'est inondable, c'est pas possible de construire dans ces domaines-là. Il faut y trouver d'autres zones et même mettre en place des cartes qui montrent des zones à risque à ne plus s'installer.
Hassan Omar Boulet, joint à Djibouti. La justice zambienne a ordonné aujourd'hui la remise en liberté du chef de l'opposition, Hakainde Hichilema, et l'abandon des poursuites pour trahison lancées en avril contre lui. Arrêté donc au mois d'avril, Hakainde Hichilema a été incarcéré depuis pour avoir gêné le passage du convoi du président zambien Edgar Lungu, dont il conteste depuis un an la réélection. Poursuivi pour trahison, il risquait une peine de 15 ans de prison à la peine de mort. Cette affaire a ravivé les tensions politiques qui agitent la Zambie depuis l'élection présidentielle de 2016 et la victoire d'Edgar Lungu qui a devancé d'à peine 100 000 voix M. Hichilema. Plusieurs voix se sont élevées dans le pays pour dénoncer les dérives autoritaires du chef de l'État. La police sud-africaine a assuré aujourd'hui savoir où se trouvait Grace Mugabe, la première dame du Zimbabwe, accusée d'avoir agressé un mannequin à Johannesburg ce week-end, mais refusée de révéler si elle avait ou non quitté le territoire sud-africain. Nous savons où est le suspect dans cette affaire, a affirmé à l'AFP le porte-parole de la police, Vishnu Naidu. Nous continuons l'enquête, aucun mandat d'arrêt n'a été délivré, a-t-il ajouté, alors que plusieurs médias ont rapporté que Mme Mugabe était rentrée au Zimbabwe mardi soir. Et puis, 3 femmes kamikazes se sont fait exploser mardi dans une ville à 25 km de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, dans le nord-est du Nigeria, faisant 28 morts selon des sources locales. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 50 minutes, en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.